Europe Midi, François Claus.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Il est 12h30 sur Europe 1.
À la minute où on se parle, eh bien moi je n'ai pas l'information de la préfecture comme quoi mon arrêté est retoqué. Donc il est toujours valable.
Et oui, elle monte la fronde des maires de France qui défendent le principe d'égalité pour autoriser dans leur commune la réouverture des commerces de proximité face aux grandes surfaces. Nous serons dans la commune de Hyères dont vous venez d'entendre le témoignage du maire, département de l'Essonne, dans quelques minutes. Autre bataille du commerce en cours, comment réguler le commerce international et mettre au pas les plateformes comme Amazon et leurs promotions agressives qui menacent à terme le commerce made in France. À quelques heures du Black Friday, la ministre déléguée à l'industrie s'expliquait ce matin sur Europe 1, nous l'entendrons. Comment imposer le masque à des enfants de 6 ans à partir de lundi? Quel discours parents ou enseignants doivent-ils tenir? Nous entendrons l'enquête de Virginie Salmen. Dans l'actualité de ce samedi, il y a aussi ces trois gardes à vue. Dans l'enquête sur l'attentat de Nice, la Pologne, qui malgré les interdictions manifeste massivement pour la défense du droit à l'avortement. Ils sont les invités de notre journal. La psychothérapeute Hélène Romano nous dira comment supporter le climat ambiant d'angoisse entre attentats, confinement et rentrée scolaire. Le géopolitologue Frédéric Ancel sera également avec nous pour décrypter la part du front anti-France dans les pays musulmans qui aurait pu jouer dans l'attentat de Nice. Nous n'oublions pas l'actualité sportive avec un très alléchant France-Irlande, finale décalée du tournoi des Six Nations. Nous écouterons les prévisions météo de Valérie Darmon qui nous promet, dans ce climat ambiant un peu déprimé, quelques beaux rayons de soleil de l'automne. Et puis, comme tous les samedis, rendez-vous à 13h pour votre magazine d'information tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 qui nous mènera de la Turquie aux États-Unis.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et oui, c'est un vrai front de la colère qui est en train de naître dans bon nombre de communes de France. Des commerçants qui veulent lutter contre la fermeture obligatoire du deuxième confinement sont soutenus par les élus de plusieurs communes de France. C'est le cas notamment à Brive, à Perpignan, à Béziers. Des maires qui prennent des arrêtés municipaux pour autoriser la réouverture des commerces de centre-ville au détriment des recommandations des préfets et de l'État depuis l'annonce du protocole du deuxième confinement. C'est le cas notamment à Hyères, cette commune dans les départements de l'Essonne, où vous vous trouvez pour Europe 1, Johanna Chabas.
Oui, et cette bonne nouvelle pour les commerçants n'aura duré que le temps d'une matinée. J'étais chez une coiffeuse, Chantal, toute heureuse de m'expliquer que le salon était plein depuis ce matin, quand les policiers sont entrés.
Voilà, vous pouvez terminer vos clients actuels. Après, par contre, il va falloir fermer. Il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de quoi que ce soit, vu qu'il y a eu un arrêté du maire et que...
D'accord.
Mais sachez que le prochain équipage passera cet après-midi.
D'accord, mais le prochain équipage, il va me dire quoi en début d'après-midi?
On s'en doute d'avoir la solution cet après-midi, par contre, de verbaliser.
Un risque de verbalisation et surtout de fermeture administrative pour les commerces qui ne respectent pas les mesures du gouvernement. Chantal, la coiffeuse, préfère ne pas prendre de risque et va fermer son salon dépité.
J'avoue que c'est un peu déstabilisant, cette sensation d'avoir l'impression qu'on a à nouveau le droit d'exercer notre profession et que d'un seul coup, tout s'arrête à nouveau. C'est très déstabilisant.
Mais dans la rue, le maire de Hyères, Olivier Clodon, a lui une autre version. Il est en sortie pour rencontrer les commerçants et il insiste, ils peuvent rester ouverts avec son arrêté.
À la minute où on se parle, eh bien moi je n'ai pas l'information de la préfecture comme quoi mon arrêté est retoqué. Donc il est toujours valable. Là où il y a de l'injustice, c'est quoi? C'est quand on autorise des grandes surfaces, des hypermarchés à ouvrir et quand on fait fermer les petits commerces qui, eux, n'ont pas le droit de vendre. Ça, c'est l'injustice.
Il demande solennellement à l'État d'entendre son appel et de laisser les petits commerces non essentiels ouvrir pendant ce deuxième confinement.
Et oui, merci Johanna Chabas. On se dirige donc vers une double bataille, on l'a compris, une bataille sur le plan juridique entre ces arrêtés municipaux et les préfectures, et une bataille aussi sur le plan de la sécurité avec les forces de l'ordre qui vont intervenir pour faire respecter les règles du confinement. Dans la commune de Dijon, le maire François Rebsamen a pris lui un autre arrêté municipal. Il veut autoriser les librairies de sa ville à rester ouvertes, les libraires qui sont contraints de fermer, qui n'ont pas été considérés comme commerce essentiel. C'est dans ce contexte qu'on a appris d'ailleurs hier soir qu'entendant l'appel des libraires, le ministère de l'économie a décidé que finalement les grandes surfaces qui restent ouvertes, à commencer par la FNAC qui vendait également des livres, n'auront plus le droit de vendre des livres. C'est l'autre bataille commerciale effectivement en cours pour défendre le commerce français. Que faire face aux plateformes dont Amazon, qui ont déjà largement gagné beaucoup d'argent pendant le premier confinement, pour tenter de mieux le réguler? Agnès Pannier-Runacher, rencontrait hier avec le ministère de l'économie les responsables de ces plateformes pour tenter de leur imposer une meilleure régulation, de leur empêcher notamment toutes ces promotions très agressives qui favorisent le commerce à quelques jours du Black Friday. Ils ont visiblement obtenu gain de cause. En tout cas, c'est ce qu'Agnès Pannier-Runacher expliquait ce matin, la ministre déléguée à l'industrie, à Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
J'ai demandé à Amazon la suspension de la campagne sur le pré-Black Friday parce que ça n'était pas du tout approprié dans ce moment où 200 000 commerçants vont devoir fermer leurs portes. Et la direction d'Amazon, en responsabilité, a accepté de retirer cette opération.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'opération pré-Black Friday comme c'était prévu.
Exactement.
Mais il y aura quand même un Black Friday.
Ah, ça nous verrons et je pense que c'est un sujet qu'il va falloir travailler avec l'ensemble des commerçants.
Oui, il faudra d'autant plus le travailler qu'on sait que c'est devenu aujourd'hui le Black Friday, le jour en France où l'on consomme le plus. C'était Agnès Pannier-Runacher, invitée de Pierre de Villeneuve ce matin sur Europe 1.
François Claus vous informe sur Europe 1.
Sur la route du retour des vacances, en écoutant Europe 1, peut-être, c'est une question qui vous taraude, qui taraude en tout cas de nombreux parents, de nombreux enseignants, à quelques heures d'une rentrée particulièrement anxiogène, entre hommage à Samuel Paty, renforcement du plan Vigipirate, et désormais, on le sait, obligation du port du masque dès l'âge de 6 ans. Comment appliquer réellement cette mesure? Quel discours faut-il tenir aux enfants? Réponse fournie par Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Élève de 7 ans en CE2 à Paris, Neil ne vit pas très bien cette annonce du masque obligatoire.
Moi, en cette période, ça me met un peu le stress, cette histoire de masque. Puis en plus, ça veut dire que si on porte le masque, bah peut-être que le virus, il s'aggrave un peu plus.
C'est plutôt le confort qui pose problème pour Alix en CE1 dans une école de Saint-André-les-Lilles dans le Nord.
Moi, je trouve que ça va faire un peu bizarre. C'est aux oreilles avec le fil, j'ai pas l'habitude.
Les médecins ont-ils changé d'avis sur le masque à l'école pour les enfants? Réponse du professeur Robert Cohen, infectiologue et pédiatre.
On n'a pas changé d'avis. Ce qui a changé, c'est la situation épidémiologique. Quand on a une faible circulation virale, leur faire porter un masque nous paraissait absolument contre-productif. Mais à un niveau de circulation élevé du virus, on a dit depuis le départ, comme l'OMS, que en cas de forte circulation virale, le port du masque pouvait s'envisager à partir de l'âge de 6 ans.
Et cette forte circulation virale, on y est avec au moins 100 000 contaminations par jour, selon le Conseil scientifique.
Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. L'actualité à l'étranger de ce samedi, nous reviendrons dans le magazine Tout Terrain après 13 heures sur la dernière ligne droite très chaude de l'élection présidentielle américaine, le soutien notamment d'Obama à Biden, une campagne qui fait rage côté républicain du côté du Texas qui pourrait faire basculer l'élection mardi. Je vous renvoie également aux 48 heures à l'heure américaine sur l'antenne d'Europe 1 à partir de mardi matin jusqu'à mercredi soir et vous suivrez notamment tous les résultats tout au long de la nuit, heure par heure. Une autre élection ce week-end, là elle n'est plus chaude, elle est bouillante, elle est sous tension, c'est en Côte d'Ivoire où le président Ouattara brigue un troisième mandat dans une ambiance, on l'a appris ce matin, encore très tendue, des bureaux de vote ont été incendiés et les violences entre partisans des différents candidats qui se multiplie. L'étranger, c'est aussi la Pologne, avec une très spectaculaire mobilisation des défenseurs du droit à l'avortement dans tout le pays hier, malgré les interdictions, pour dénoncer, Nicolas Feldman, les atteintes de plus en plus marquées, prônées par le gouvernement, validées par la Cour suprême en Pologne, aux droits des femmes à l'IVG.
Oui, et le symbole de cette colère, c'est un éclair rouge. On le voit sur toutes les pancartes des manifestants. La révolte s'abat sur les rues des grandes villes du pays depuis 10 jours. De la capitale Varsovie à Cracovie, à Gdansk, des dizaines de milliers de personnes bravent les restrictions contre le Covid pour dire non à cette décision du tribunal constitutionnel. Interdire l'IVG en cas de malformation du fœtus. Alors dans ce pays de 38 millions d'habitants, très majoritairement catholiques, eh bien les conservateurs au pouvoir s'attaquent à une loi anti-avortement déjà parmi les plus restrictives d'Europe. Si la mesure est actée, cela veut dire qu'une Polonaise ne pourra plus avorter qu'en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. En Pologne, seuls 2000 avortements légaux sont réalisés chaque année, mais des dizaines de milliers de Polonaises avortent clandestinement ou à l'étranger. Dans les cortèges, ces messages, on en a assez, mon corps, c'est mon choix. Le mouvement baptisé la grève des femmes assure que les manifestations vont se poursuivre jusqu'à l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement.
Merci Nicolas Feldman.
Europe Midi. François Claus.
Dans l'enquête sur l'attentat de Nice, ce sont désormais 3 personnes qui sont en garde à vue, 3 personnes qui ont côtoyé le terroriste tunisien dans les heures qui ont précédé son passage à l'acte. L'objectif, Justin Morin, c'est évidemment de déterminer si le terroriste agit seul ou avec des complices, mais aussi de combler un peu toutes ces zones d'ombre entre son arrivée sur le territoire européen à Lampedusa à la fin du mois de septembre et son passage à l'acte jeudi matin dans la basilique de Nice, Justin.
Oui, les enquêteurs sont en train de remonter tout son parcours depuis l'attaque, où il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance, qui il a rencontré, qui il a pu appeler avec les 2 téléphones que l'on a retrouvés dans son sac. Chaque contact qu'il a eu est passé au crible. C'est ce qui est en train de se passer avec les 3 hommes gardés à vue. On est en mesure ce midi d'en dire un peu plus sur la raison de leur interpellation. Je vous parlais des caméras de vidéosurveillance. Le premier, arrêté le jour de l'attaque, a justement été aperçu la veille au soir à la gare avec le terroriste. Il a eu un échange prolongé avec lui. Les enquêteurs cherchent à savoir ce qu'ils se sont dit. Le deuxième suspect a été interpellé hier soir vers 18h30. Il aurait fourni un téléphone portable à l'assaillant. Dans la foulée, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile. C'est là qu'ils sont tombés sur le troisième homme, qui a été lui aussi placé en garde à vue dans la soirée. L'auteur de l'attaque, lui, est toujours inconscient, à l'hôpital, sous bonne garde, mais il n'a toujours pas pu être interrogé.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Au-delà des éventuelles complicités, quelle part le contexte géopolitique du moment a pu jouer, a pu motiver et pousser le terrorisme au passage à l'acte, c'est évidemment très difficile à déterminer. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, professeur à la Paris School of Business. Frédéric Ancel, de nombreuses manifestations de Malaisie jusqu'au Bangladesh, un quasi-appel au meurtre de l'ancien président de Malaisie, boycott des produits français initiés par Erdogan en Turquie, relayé au Koweït et au Qatar. Quelle importance faut-il réellement donner aujourd'hui à cette mobilisation anti-française dans le monde musulman ?
Une importance très faible. Je pense qu'on fonctionne sur un effet loupe et on est tous en train de, à tort, de survaloriser un phénomène qui existe. D'ailleurs, il a existé à l'époque de la première publication des caricatures par Charlie Hebdo. Mais en réalité, lorsqu'on observe à tête reposée l'intégralité du monde musulman, composé, je le rappelle, de 57 États, là, on parle de 4, 5, 6 États, dont les plus petits d'ailleurs, notamment le Qatar, le Koweït, dans lesquels il y a eu manifestation. 57 États qui abritent un peu plus d'un milliard, 200 millions, 1 milliard, 300 millions de musulmans. Bah, écoutez, les manifestations qu'on a vues, qui existent, qui ont existé bien évidemment, non seulement ont été quand même extrêmement limitées en nombre et en qualité, et puis surtout, pour l'essentiel, c'était des organisations elles-mêmes islamistes, alors dont on peut très bien comprendre qu'elles voulaient bien évidemment appeler à manifester, à commencer par les Ikhwan, donc les frères musulmans, et les salafistes. Mais à ma connaissance, sauf Monsieur Erdogan, et encore de manière à moitié officielle, on va dire ça comme ça, aucun État musulman n'a appelé officiellement donc au boycott des produits français.
Oui, on verra tout à l'heure d'ailleurs dans Tout Terrain avec le reportage de Jean-Sébastien Soldani que l'impact dans la population turque aujourd'hui de cet appel corrobore vos propos. Il y a une forme d'effet de loupe, effectivement, quand au moins un drapeau français qui brûle. C'est assez spectaculaire. Ça rappelle un peu les toutes petites manifestations palestiniennes pro-attentat de 2001 à New York. On a du mal à comprendre, Frédéric Ancel, comment ce qui est considéré comme un blasphème dans ce monde musulman, la représentation visuelle du prophète, peut générer une telle barbarie. Qu'est-ce que vous diriez à cette interrogation ?
Alors je dirais qu'il y a d'une part méconnaissance profonde de beaucoup de gens d'origine ou de culture musulmane eux-mêmes. Je me permets de rappeler avec beaucoup de respect que dans le Coran, qui est un volume extrêmement fourni, très important, donc plus de 600 sourates, il n'y a que quelques apparitions, 3 réelles apparitions du prophète. Donc vous avez une méconnaissance qui malheureusement est instrumentalisée par des militants, par des islamistes radicaux qui eux, bien évidemment, on le sait, ont un projet politique. Et si vous ajoutez à cela que il y a dans le monde musulman aujourd'hui à la tête des États musulmans, des pouvoirs qui, sur le plan social et économique, pour une bonne majorité d'entre eux, ont échoué, et ont échoué gravement, eh bien il est intéressant pour ces régimes politiques de pointer le doigt, ou de laisser pointer le doigt, sur l'ennemi extérieur, qui est très commode, très pratique, et notamment sur la figure d'Emmanuel Macron, pour faire oublier à leur opinion publique que, décidément, la gestion de leur pays est simplement calamiteuse. Vous voyez, donc on a, je dirais qu'on a un double effet, méconnaissance instrumentalisée, j'allais dire, dans la rue, ou dans la mosquée, et à la tête de l'État, une instrumentalisation cynique à des fins politiques.
Il reste, Frédéric Ancel, dernière question pour vous, que cette fameuse loi de 1905, renforcée par la future loi appelée contre le séparatisme par le pouvoir, pose un problème dans l'intégration d'un certain nombre de musulmans qui ne supportent pas ces atteintes finalement qu'ils estiment fondamentales à la pratique de leur culte sur notre territoire.
Alors oui, c'est vrai. Alors je pense qu'il y a trois points, je l'ai dit très rapidement. D'abord, le premier point, c'est que l'immense majorité des citoyens d'origine, de culture ou de foi musulmane dans notre pays n'ont jamais remis en cause les lois de la République, y compris celles qui concernent l'absence de blasphème et le droit de caricaturer. Ça, c'est le premier point. Sinon, on serait déjà en guerre civile depuis longtemps. Le deuxième point, c'est que les gens d'origine musulmane qui sont choqués ont parfaitement le droit de l'être. Et ils ont parfaitement le droit de demander à réparation. Je rappelle que la mosquée de Paris, à l'époque, lors de la publication des caricatures de Mahomet, avait intenté un procès. Le procès a été perdu, mais on est allé en justice de manière totalement démocratique et républicaine. Et n'importe quel citoyen ou n'importe quelle association peut se pourvoir aujourd'hui en justice si elle en a envie. Et les tribunes et les médias sociaux sont évidemment, les réseaux sociaux sont absolument ouverts à la totale liberté d'expression. Et le troisième et dernier point est le suivant, et je le dis rapidement, pour des citoyens qui ne supporteraient absolument pas ce fondement général de valeurs, de lois, d'institutions et qui souhaiteraient avoir recours à la violence, eh bien écoutez, je pense qu'il faut leur dire qu'ils ont le choix entre 192 autres pays qui sont recensés aujourd'hui à l'ONU, dont certains qui appliquent d'ailleurs une charia très stricte. Les frontières sont ouvertes.
Merci beaucoup Frédéric Ancel pour cet Merci éclairage, ces précisions. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po et professeur à Paris School of Business. À l'étranger, justement, on va y rester une seconde. On vient d'apprendre, et j'évoquais tout à l'heure les violences en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'élection présidentielle ce week-end. Le président sortant qui se représente, Monsieur Ouattara, demande à ses partisans de cesser à l'instant même toute forme de violence. Voilà pour l'actualité à l'étranger. N'oublions pas que nous sommes le week-end et qu'il y a de l'actualité sportive dont le point d'orgue sera en rugby, ce France-Irlande à 21h ce soir. Cette fameuse entre guillemets finale du tournoi des Six Nations qu'on s'apprêtait à vivre au printemps dernier, même si la victoire dans le tournoi paraît peu probable puisqu'il faudrait une grosse contre-performance des Anglais en Italie. Il reste qu'après la belle victoire contre le Pays de Galles en amical la semaine dernière, on attend Axel May, une confirmation contre l'une des trois meilleures équipes mondiales du rugby actuel.
Quand ils fouleront la pelouse du Stade de France, dans le silence du huis clos, les Bleus n'auront qu'un objectif, gagner face à l'Irlande et avec un score large. Car auparavant, l'Angleterre aura, sauf énorme surprise, remporté aisément son match contre l'Italie et pris provisoirement la tête du tournoi. Alors quand on demande au sélectionneur Fabien Galthié et au manager Rafal Ibanez quel discours ils tiennent aux joueurs, ils se livrent à un numéro de duettiste.
Le message aux joueurs est simple, nous avons autant de chances de gagner le tournoi que l'Irlande et l'Angleterre.
C'est assez simple. Mais nous aimons la simplicité. Et Raphaël a été très explicite sur notre objectif. Ensuite, si je vais un peu plus loin, l'enjeu que nous devons relever aussi, nous devons être réguliers.
La régularité dans les résultats. Avec, pour la première fois depuis 10 ans, la possibilité de remporter le tournoi des Six Nations, l'international Thomas Ramos.
Forcément, dans un coin de la tête, on y pense tous. Mais après, voilà, on garde notre enthousiasme, notre joie de vivre et on ne prend pas la tête plus que ça.
Les Bleus le savent, il ne faut pas s'enflammer après la belle victoire en match de préparation contre le Pays de Galles samedi dernier, au risque sinon, comme le résume l'ouvreur Romain Ntamack, de vite redescendre de 15 étages.
Il y aura également du football, 2 matchs ce week-end, enfin ce samedi d'abord, à 17h le derby de la Bretagne entre Rennes et Brest, et ce soir le PSG sans Neymar blessé aux adducteurs qui joue à Nantes. Thomas Tuchel estime que ces blessures sont l'illustration du délirant calendrier que subissent aujourd'hui les joueurs de première division et qui jouent en même temps la Ligue des Champions. Il nous reste à voir le temps de ce samedi. Alors c'était bon ce matin, on va le dire, hein, Valérie Darmon, dans cette ambiance lourde du confinement et du Vigipirate, de voir un très beau soleil d'automne sur la capitale, Valérie.
Effectivement, François, les hautes pressions garantissent un temps calme et sec sur les trois quarts est et sud de la France. Grand soleil des plaines du sud-ouest aux vallées du centre et de l'est, tandis que le nord-ouest reste sous la grisaille à cause de cette petite perturbation arrivée ce matin par la Bretagne. Du coup, il pleut ou il pleuviote. Des Pays de la Loire à la Normandie et sur les Hauts-de-France. Le vent souffle en rafale à 70-80 km/h sur les régions proches de la Manche. Sur le bassin parisien, après une matinée bien ensoleillée, le ciel va se charger au fil du temps et les pluies arrivées par l'ouest en fin de journée. Les températures sont douces partout, parfois dignes d'un 1er mai, avec 15 à 19 degrés sur la moitié nord, 18 à 25 au sud. Et demain, info importante pour profiter autant que faire se peut d'aujourd'hui, changement radical de programme, un temps de Toussaint pour ce 1er novembre sur la moitié nord.
Bon, on va profiter. Alors, merci Valérie Darmon.
Europe Midi, François Claus.
Alors le soleil, c'est bien pour le moral, mais ça ne suffit pas. Comment vivre cette ambiance si particulière entre l'enfermement partiel du confinement, les éléments d'inquiétude, d'anxiété collective après les attentats? Eh bien, on va écouter avec beaucoup d'intérêt la psychothérapeute Hélène Romano, qui est notre invitée. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. François Claus.
Bonjour Hélène Romano.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui, vous qui êtes psychothérapeute spécialiste des traumatismes psychologiques. Les Français en vivent deux au même moment, celui de ce terrorisme qui a durement frappé à Nice et très violemment du côté de Samuel Paty, pardon, et évidemment ce reconfinement, c'est lourd à supporter les deux événements en même temps.
C'est très lourd et on ajoute à ça le fait que le confinement lui-même est traumatique au sens où c'est un deuil en termes de perte. Hein. Si le deuil, c'est la réaction face à la perte, on perd nos repères, on perd nos habitudes et il y a un climat d'incertitude. Donc il y a vraiment trois dimensions traumatiques, le stress, l'angoisse des attentats, le confinement avec tous ses enjeux et puis cette vie qui s'annonce extrêmement différente. Alors, ce qui est vraiment important en particulier pour les enfants, c'est que les adultes essayent, au-delà de l'angoisse et du climat d'incertitude, de penser positivement et d'essayer de projeter positivement sur l'avenir pour éviter d'être dans une sinistrose et dans une vision apocalyptique de l'avenir. Parce que si les adultes ont cette représentation-là, pour les enfants, ça va être dramatique. Mmh, mmh.
Ça veut dire assumer quelque part, vous diriez Hélène Romano, là, oui, c'est dur en ce moment, mais demain sera meilleur.
Oui, c'est dur en ce moment, on se réfère à l'histoire, dans l'histoire, parce que le traumatisme est un temps qui sidère, qui fige, et on a l'impression d'être bloqué là-dedans et de pas avoir perspective. Et en se référant à l'histoire, c'est aussi important, parce que ça permet de transmettre à nos enfants que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes très dures, il y a eu des moments très difficiles, les guerres, les pandémies, etc. L'être humain s'en est toujours sorti. On va se dégager de ça, essayer de se projeter sur des projets, même si c'est à plusieurs mois. Et se représenter la temporalité, c'est extrêmement important. Au jour le jour, le faire en se donnant des timings dans la journée, des périodes différentes, mais aussi dans les jours, dans les semaines qui viennent, et en se référant aussi à l'histoire. Ça, c'est très important pour se dégager de l'impact sidérant du confinement.
Oui, ça aurait une double vocation pédagogique également en même
tout
temps.
À fait.
Et oui, ça renvoie également dans ma génération à ce que nos grands-parents ou parents disaient, mais tu n'as pas connu les privations, qui passaient pour quelque chose qu'on n'entendait pas à l'époque. Et puis finalement, ça faisait un cours d'histoire et on écoutait un peu plus attentivement. Est-ce que vous diriez, Hélène Romano, que paradoxalement, le confinement partiel n'est peut-être pas plus difficile à vivre qu'un confinement total ?
Alors, seule l'histoire permettra de voir comment les Français vont le vivre. Là, on est vraiment juste après l'annonce. Sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que pour beaucoup de personnes, il y a une forme d'incompréhension. À la fois, ça paraît plus souple, mais en même temps, c'est presque plus insécurisant parce qu'il n'y a pas forcément une cohérence. Le métro, où il y a un risque majeur d'être contaminé, reste ouvert. Les écoles aussi, mais il y a d'autres lieux qui sont fermés, qui sont aussi des lieux de vie, comme les bars, les restaurants. Donc, pour les personnes lambda, tous les citoyens, l'incohérence peut apparaître extrêmement forte par rapport aux décisions politiques qui sont prises, même si elles peuvent aussi s'expliquer pour d'autres enjeux. Donc cette incohérence-là, perçue par les gens, peut renforcer un sentiment d'insécurité psychique. Donc, c'est pas forcément plus facile d'avoir un confinement à l'eau tiède, entre guillemets, un entre-deux, qu'un confinement total. Parce que il n'y a pas une continuité, en fait, dans les décisions qui sont prises. Et il y a des avis qui sont donnés contradictoires. Le port du masque, maintenant imposé aux petits, alors qu'il y a deux mois, on disait qu'ils n'en avaient pas besoin.
C'était inutile.
C'est très insécurisant pour les gens.
Et c'est ce qu'on mesure également avec la fronde qu'on évoquait dans le journal des commerçants.
Tout à fait.
Dernière question, Hélène Romano. Est-ce qu'on a mesuré médicalement l'impact sur notre bien-être psychique et du bien-être psychique, j'allais dire, sur nos défenses immunitaires. C'est-à-dire, on a besoin de se défendre et on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas lire, on ne peut pas parler aux autres. C'est compliqué, non ? Et ça a un impact direct ?
C'est un impact direct. Il y a plusieurs études en cours. Marie-Georges Buffet, qui préside toute une commission de l'Assemblée nationale justement sur l'impact, en particulier sur les enfants du premier confinement. On a montré à travers les premières études qu'il y avait un impact sur la vie psychique des enfants et des adultes qui était majeur en termes de troubles anxieux, troubles addictifs, etc. Et un impact aussi au niveau de la santé, prise de poids, absence de prise en charge médicale sur des choses du quotidien mais qui peuvent devenir assez dramatiques sur la suite. Donc il faut vraiment prendre soin de soi. Pas rester seul, essayer de créer autrement un autre réseau et surtout se dire qu'on va dépasser, c'est une épreuve, mais on va la dépasser, surtout dire à nos enfants qu'ils sont pas tout seuls. Les adultes, ils sont là, ils font le maximum et on dépassera cette période-là. Il faut aussi penser à se projeter positivement
sur l'avenir. Oui, c'est le grand message du jour. Merci beaucoup Hélène Romano, je renvoie à votre ouvrage. Quand la vie fait mal aux enfants, chez Odile Jacob, et Frédéric Ancel qui nous a éclairé si brillamment sur la situation géopolitique, il est lui l'auteur des 100 mots de la guerre, c'était au PUF, publié en septembre dernier, tout terrain après les infos de 13h.